Ragoût de panique.
Chapitre 59. Le rôle du conseil de programmation.
Radio Panique est une des très rares radios associatives qui se dote d'un conseil de programmation dans les années 90. L'objectif est la recherche de cohérence pour l'auditeur entre la direction conceptuelle, la charte de Radio Panique et la programmation dans son contenu, sa structure et sa forme.
Panique logique et homogénique.
Le conseil de programmation dispose de trois armes pour réaliser cet objectif. C'est lui qui, en amont, peut prospecter et en tout cas sélectionne les projets d'émission présentés. C'est lui qui établit la grille horaire et donc peut rendre perceptible, lisible des cohérences. C'est lui qui peut imposer des changements quant au fond et quant à la forme à des émissions ou éventuellement les exclure.
Attention, lecture de flux égale coupure de flux ou qui trop embrase mal éteint.
Un nouveau conseil de programmation de Panique est mis sur orbite fin 1994. Il doit être le moteur du deuxième versant du projet d'AI, à savoir la réforme de la programmation. Fin 1995, il jette l'éponge.
Comment évalues-tu ton travail au conseil de programmation ?
Alors, mon travail au conseil de programmation, il y a eu un long rapport là-dessus. je crois qu'on a très mal travaillé. On n'a en tout cas jamais réussi à imposer quoi que ce soit. Et je pense que le conseil de programmation au sein duquel j'ai travaillé était relativement, finalement... Démotivé par une certaine forme de cynisme par rapport à l'état de la radio, par rapport au conseil de gestion. On avait élaboré tout un plan, on avait très violent et très provocateur de nouvelles répartitions des heures d'émission. Et on a fait la gaffe, c'était pas très diplomatique de vouloir présenter ce plan de réforme lors du cocktail d'ouverture du nouveau studio ici. Et ça a provoqué un tollé général, on en a été empêché. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a coupé, nos effets, quoi. À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on est devenu, qu'on a adopté une attitude beaucoup plus désabusée, je dirais, et qu'on ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur l'impact que le conseil de programmation pouvait avoir. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai ressenti ça. Je ne sais pas comment les deux autres membres du conseil l'ont ressenti, mais moi c'est ce que je ressentais. Et ça s'est confirmé, quoi, par la suite. Mais on n'a pas fait un travail très sérieux, finalement. On aurait dû apposer beaucoup plus nos vues, etc. Mais le conseil de programmation a déjà été créé à la demande du conseil de gestion de l'époque. Et j'ai toujours eu l'impression que le conseil de gestion voulait un peu utiliser le conseil de programmation en tant qu'arme offensif vis-à-vis de ce qui lui déplaisait dans la radio, etc. Une sorte d'avant-garde, quoi, qui devait prendre tous les risques et qui devait assumer la responsabilité de toutes les décisions désagréables à prendre. Voilà. Ouais, ça, c'est toujours l'impression que j'ai eue personnellement. Et ça ne pouvait pas donner grand-chose. Pas plus que ça ne donne grand-chose maintenant. Tant que le conseil de gestion et tant que le conseil de programmation ne travailleront pas réellement ensemble, ils continueront à travailler l'un à côté de l'autre et ça n'aboutira à rien du tout.
Les gens de panique.
Xavier Jacques.
Raconte un peu comment et à quelle époque tu as fait la connaissance de Radio Panique.
À quelle époque L'été 94. Donc je voulais changer d'études, je voulais faire des études d'ingénieur du son à l'INSES, qui est toujours un petit peu angoissant au moment où on veut rentrer dedans, parce qu'il y a un examen d'entrée, et je n'avais rien comme expérience, ni comme... jamais encore eu de contact avec le milieu professionnel qui me tentait. Et il m'a semblé que... Enfin... Oui, il m'a semblé que faire de la radio était une façon intéressante de rentrer dedans. C'est déjà un aspect qui m'intéressait au niveau du métier d'ingénieur du son. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec... j'ai cherché des contacts. J'ai trouvé Philippe qui m'a guidé vers Panique. Et je ne sais plus comment je suis arrivé à Campus.
Et tu as appris beaucoup de choses.
Oui, enfin, si je regarde l'ensemble du temps que j'ai passé à m'impliquer dans Panic, oui, beaucoup. Peut-être pas toujours. Les choses les plus importantes que j'ai apprises ne sont peut-être pas au niveau de la technique radio, même si il y a quand même beaucoup de choses que j'ai apprises là, notamment grâce à Patrick. J'ai appris beaucoup de choses, oui. Au-delà de ce que j'ai appris, j'ai surtout rencontré des gens. Je dirais que c'est l'aspect le plus important. C'est les gens que j'ai rencontrés. J'ai fait à Panic des rencontres qui, pour moi, n'ont pas changé le cours de ma vie, parce qu'à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais en train de définir le cours de ma vie. Et c'est des rencontres qui m'ont permis de mieux me poser certaines questions à un moment finalement crucial de mon existence. C'est très centré sur moi-même ce que je dis, mais c'est important. Et j'ai rencontré des amis vraiment à Panic.
Donc tu t'es investi dans Panic comme association aussi, puisque on te retrouve assez rapidement, après 2 ou 3 ans, je crois, dans le conseil de programmation.
Oui, oui, oui.
Et puis ça s'est pas très bien passé.
Si. Moi, je considère que ça s'est bien passé.
En tout cas, tu démissionnes du conseil de programmation après quelques mois.
Oui. Je crois que j'ai même démissionné de l'Assemblée Générale aussi à peu près en même temps.
Pour quelle raison?
C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Et ça fait partie des choses les plus importantes que j'ai apprises à Panic. C'est le fonctionnement, justement, d'une association, le fonctionnement d'une assemblée, le fonctionnement d'un genre de démocratie directe quelque part, et presque fonctionnement de petite politique. Et aussi j'ai appris, ou peut-être pas appris, le difficile art de la négociation. Ce qui s'est passé, c'est que on a relancé le conseil de programmation. Nous étions 3 au départ. Il y avait Philippe Dubois, Philippe Wallraff et moi. Et on fonctionnait bien à 3, parce qu'on avait vraiment on était assez d'accord sur ce qu'on voulait, sur disons, la vision, je ne vais pas dire artistique, mais le type de programme qu'on voulait accepter, la qualité des programmes. Et on avait vraiment une image de Panic qu'on voulait vraiment. Belle et forte et agréable à écouter et variée. Et donc on avait des réunions régulièrement, on a beaucoup discuté sur ce qu'on voulait de Panic, comment on voyait ça, et c'était assez constructif. Je crois que l'idée, c'était de casser certains blocs qui étaient présents au niveau de la grille horaire, notamment qui occupaient des heures intéressantes par rapport à un public qu'on aurait aimé toucher, qui était un public de jeunes et de ce qu'on pourrait appeler, ou de ce qu'on a appelé à une certaine époque, les nouvelles cultures, on a assisté à ces années à la naissance de la lounge, des choses comme ça. Le rap a pris une place de plus en plus grande et s'est développé comme culture à part entière, apparemment, enfin comme sous-culture. Et des places idéales pour toucher un public jeune qui aurait été la cible d'une émission de ce type étaient évidemment les heures du soir, le week-end souvent, et ces heures étaient occupées par des émissions qui ne correspondaient plus tellement à l'image qu'on avait de Panic, enfin qu'on aurait voulu avoir de Panic, dans le sens où ces émissions n'avaient aucune dynamique et ressemblaient vraiment à des émissions de radio commerciale de bas étage, fort commercial et fort enfermé sur leur petit public restreint, quoi. Peu encline à aller vers d'autres publics. Et on a planché sur une nouvelle grille horaire qui était un projet qu'on a affiché. On a trouvé ça intéressant. Enfin, nous, ça nous excitait beaucoup de faire ça, de voir ce projet qui permettait d'ouvrir des choses. Et on a voulu le rendre public le plus vite possible, parce que c'était un projet, il fallait des réactions des gens. Et on l'a rendu public, je ne sais plus quelle occasion c'était, mais il y avait du monde. Je ne sais plus si c'était une assemblée générale ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était une assemblée générale. On l'a affiché dans les couloirs. On comptait le présenter à l'assemblée. Et juste avant l'assemblée, je crois qu'un des membres du conseil d'administration a réagi de façon très virulente à l'égard de ce qui n'était qu'un projet. Et enfin, passer dans tous les couloirs en criant « Mais c'est pas possible, on peut pas accepter ça, on peut pas rendre ça public comme ça. » Et en arrachant tout ce qui était affiché. Quoi. Ça a grosso modo tué dans l'œuf le projet d'un conseil de programmation destiné à... Enfin, qui était censé avoir pas mal de liberté au niveau de ses pouvoirs de décision et qui a été... s'aborder ce jour-là. Je suis rentré dans le mouvement associatif de panique, j'ai essayé de m'y inscrire, de m'y faire ma place et de le faire avancer, peut-être d'aider à faire avancer le projet. Et c'est là que j'ai découvert ce qui pour moi est le problème du milieu associatif, c'est presque l'inefficacité, mais le terme est malheureux. La difficulté de faire avancer les choses quand beaucoup de gens sont rassemblés comme ça avec malheureusement un intérêt personnel qui rentre en jeu. Beaucoup de gens rentrent dans l'association, dans une association quelle qu'elle soit, je crois que c'est valable pour beaucoup d'ASBL, avec plus à la recherche de la réalisation d'un intérêt personnel que la réalisation du but collectif. Et c'est ce côté intéressé qui mine le fonctionnement des ASBL. Je crois que c'est en général. Ce n'est pas que Panique, c'est vraiment la même chose partout.
Ça a toujours été un problème au niveau de Radio Panique, le conseil de programmation, à mon avis. Parce que, voilà, quoi, on a un pouvoir de décider si. Et ce pouvoir, il n'est pas forcément bien utilisé. Je parle pour tout le monde, quoi, que ce soit... pour moi ou pour quelqu'un d'autre.
Chaque fois que j'ai travaillé dans un conseil de programmation, je trouvais que soit, comme moi je suis permanent, je suis là tous les jours, donc ils n'avaient pas la même conscience, je dirais, de la philosophie générale de la radio, ni la connaissance surtout des gens en tant qu'individus qui sont au sein de la radio. Moins conscience, c'est-à-dire il y a une différence entre voir un projet sur papier, écouter une cassette, et en plus de voir le projet sur papier, d'écouter la cassette, mais d'avoir reçu le type dans le bureau. Parce qu'il n'y a rien à faire, le contact humain, il n'y a rien qui peut le remplacer, même envoyer des emails, tout ce qu'on veut. Le potentiel de quelqu'un, on le voit en discutant avec lui, quoi. Puis après, on voit le projet. Et souvent, par exemple, j'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a des gens qui refusent des projets sur base d'une cassette, ils n'ont même pas vu la personne. Et ça, c'est des trucs que je ne comprends pas. Et j'ai toujours eu ça dans les conseils de programmation. Donc moi, trop informé contre des gens qui ne sont pas assez, et pas toujours les mêmes objectifs. Alors en gros, le conseil de programmation de cette radio, c'est quoi? Informellement, c'est Serge qui prend des projets et qui les rend sans rien demander à personne.
Donc si je comprends bien, la programmation actuelle, puisque si tu fonctionnes comme ça dans le conseil de programmation depuis déjà 4-5 ans, je crois, la programmation actuelle de Radio Panique, c'est un peu ton enfant, c'est ta programmation.
Non, ça je n'irai pas jusque-là, parce que Radio Panique n'est pas une radio où on va chercher... On me l'a reproché, ça, on m'a dit tu vas chercher des projets à l'extérieur. Eh bien, ça ne m'est jamais arrivé. Ou peut-être une ou deux fois, mais grand maximum, que je ne m'en rappelle même plus qui. Quoi. En gros, non. En gros, je sélectionne selon des candidatures. Quoi. Moi, je n'ai jamais été téléphoné à tel type que je ne connaissais pas parce que j'avais entendu parler qu'il était un bon DJ. Moi, j'attends qu'il vienne à la radio. J'attends qu'il ait au moins une motivation personnelle, qu'il ait envie d'être partie prenante dans le projet général. Et à partir du moment où il vient, alors là je vois si, oui ou non, pour moi, il peut faire partie de la station ou pas. J'essaie d'avoir quand même... par exemple, là, dernièrement, j'ai accepté un projet de musique punk. Je déteste ce genre de musique, mais je trouve que ça a sa place sur la radio. Quoi. Il y a toujours eu du punk sur les radios alternatives. Ça représente toute une culture de résistance, etc. et tout, qui me semble intéressante et enrichissante pour la radio, même si c'est une émission que j'écouterai pas spécialement. Quoi.
Le conseil de programmation devrait être le porteur de la direction artistique et de la ligne éditoriale de la station. Tâche quasi impossible pour trois raisons. En raison de la structure associative de la radio, Il y a une tension permanente entre l'objectif global et les intérêts particuliers des animateurs bénévoles. En raison de la composition du conseil de programmation, ses membres sont juges et parties. En raison de l'interférence, voire de conflits entre la gestion administrative et financière du conseil d'administration et la gestion de la programmation.
Les rapports artistiques et éditoriaux sont des rapports de pouvoir. Élémentaires, mon cher Watson.
Et que personne ne l'oublie.
En l'absence d'un nouveau lien communautaire, religion salvatrice qui intégrerait la masse des errants et des différents dans un nouveau consensus, autre que celui du plus d'argent et de biens pour tout le monde, nous sommes amenés, pour la première fois dans l'histoire, à vivre avec des différents, en misant sur nos codes moraux personnels, sans qu'aucun ensemble, embrassant nos particularités, ne puisse les transcender. Une communauté paradoxale est en train de surgir, faite d'étrangers qui s'acceptent dans la mesure où ils se reconnaissent étrangers eux-mêmes.
Julia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, édition Fayard, page 290.